France Inter.
Les choses de la ville.
Avec l'Ordre des architectes.
Bonjour David Habitant.
Bonjour Laetitia.
Dans les choses de la ville, ce matin, vous allez nous parler de fortifications et plus précisément de celles qui entourent la ville de Carcassonne.
Oui, Carcassonne qui s'étend aujourd'hui bien au-delà de ses remparts, mais qui garde cette trace très concrète de tout un pan de son histoire durant lequel la ville était concentrée dans un territoire d'une petite dizaine d'hectares en léger surplomb des environs, à l'endroit même où quelques siècles avant notre ère, des premiers habitants s'étaient installés le long d'un axe de communication important entre l'Aquitaine et la Méditerranée. Nous suivons la guide Katia Signol en pleine présentation de la cité de Carcassonne.
Les premiers habitants vont construire ce qu'on appelle un oppidum. Donc en fait, nous aurons une protection qui sera en bois, dont il ne nous reste rien, bien entendu. La deuxième population qui arrive, ce sont les Romains. Comme ils vont subir des invasions, parce que cette route de commerce est également route de passage, eh bien ils vont construire une muraille qui sera la seule muraille que va avoir la cité, tenez-vous bien, pendant 1000 ans.
Nous sommes précisément au cœur de la cité de Carcassonne, puisqu'au pied du château qui s'appuie sur l'ancienne enceinte gallo-romaine, enceinte qui date sans doute du 3e ou 4e siècle et qui reste encore visible aujourd'hui.
Ça, c'est les remparts gallo-romains, voyez. Vous voyez ce côté-ci, vous trouvez les remparts gallo-romains. Non, pour les gallo-romains, ça suffisait amplement. Parce qu'en fait, ils étaient complètement adaptés par rapport à la période. Par contre, c'est vrai que ces remparts gallo-romains à l'époque médiévale n'étaient pas suffisants pour la protection.
Si bien que la cité finit par être assiégée en 1213, différents pouvoirs vont se succéder durant une quinzaine d'années avant que Carcassonne ne se rende à l'armée royale et ne devienne forteresse royale.
Et une deuxième muraille, David, est mise en construction dans le milieu du XIIIe siècle.
Effectivement, celle-ci, en revanche, n'a jamais laissé passer d'envahisseurs.
Ça a été suffisamment dissuasif parce que je vais vous dire, en 1355, quand on a eu les Anglais qui sont passés, ils n'ont pas mis un pied dans la cité parce que c'était trop impressionnant. Même maintenant, c'est impressionnant. Et imaginez, à cette époque-là, c'est quelque chose de gigantesque puisque la muraille extérieure fait tout de même 1,650 km. C'est des travaux fous qui ont été réalisés à cette époque-là.
Et ces travaux fous, pour reprendre Katia Signol, ils ont fait de Carcassonne un lieu militaire stratégique. Au moins pendant un temps, car il se passe ici ce qui a rendu caduque beaucoup de places fortes en Europe à travers l'histoire. Les guerres et les traités ont beaucoup fait bouger les frontières, si bien qu'en 1659, l'Aragon, qui s'étendait jusque-là au pied de la cité de Carcassonne, voit sa frontière repoussée beaucoup plus loin au sud, où une autre forteresse assurera la défense du royaume de France.
Et à partir de là, les habitants ne recherchent plus la protection de l'enceinte de la cité.
Effectivement, du coup, la population décline. Par la suite, les administrations déménagent et les fortifications ne sont plus entretenues. Certaines parties de la muraille commencent même à être vendues à des particuliers qui récupèrent les pierres pour servir sur d'autres chantiers.
Et l'importance que l'on porte aujourd'hui, David, au patrimoine n'est pas du tout le même à l'époque.
Effectivement, ça paraîtrait impensable aujourd'hui de déconstruire un bâtiment millénaire pour en récupérer les pierres, mais au début du 19e siècle, la notion de patrimoine culturel n'en est qu'à ses balbutiements. Ce sont paradoxalement les destructions de la Révolution française qui ont amené un intérêt pour la conservation de certains monuments. Il faudra attendre 1830 pour la création d'un poste d'inspecteur des monuments historiques qui sera affecté quelques années plus tard à Prosper Mérimée, que beaucoup appellent le grand sauveur du patrimoine français.
Alors Prosper Mérimée qui confiera à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc les travaux de restauration de l'édifice.
Restauration qui déchaînera les passions des années durant, mais qui n'empêche pas aujourd'hui aux yeux les plus avisés de reconnaître les différentes période de construction de l'ensemble. Nous retournons à la visite de Katia Signol.
Voilà, ça décoiffe, hein ? Alors là, nous sommes sur la muraille intérieure. Je vous ai dit que la muraille intérieure avait été construite sous la période des Gallo-Romains, mais que toutefois, quand même, il y a eu des réadaptations à l'époque royale. On voit aussi l'espace qui a été réalisé par Viollet-le-Duc. Quand vous voyez ces sortes de gros moellons, hein, vous voyez que là c'est tout plat, c'est bien esthétique. Vous le voyez également sur le haut. Vous voyez aussi cette superbe charpente qui a quand même été réalisée au 19e siècle. Donc on peut voir, si vous voulez, les niveaux de restauration, même si maintenant ça commence à se confondre. Mais en tout cas ici, cette partie d'escalier permet de voir que ça, c'est une œuvre de restauration.
Je vous parlais des polémiques qu'avaient suscité en leur temps les travaux initiés par Viollet-le-Duc à la cité de Carcassonne. Il faut savoir qu'il y avait eu sensiblement les mêmes quelques années plus tôt à propos de la restauration de Notre-Dame de Paris toujours par Viollet-le-Duc. Et ironiquement, un siècle et demi plus tard, aujourd'hui, donc après l'incendie de l'année dernière, c'est la restauration de Viollet-le-Duc qui ne cesse de faire polémique. Alors heureusement, le temps semble faire rentrer les choses dans l'ordre. À Carcassonne en tout cas, un siècle après la restauration de la cité et de ses remparts, l'ensemble a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Merci David. Habitant les choses de la ville ce matin, les remparts de Carcassonne. C'est en partenariat les choses de la ville avec l'ordre des architectes, à voir et à réécouter aussi sur franceinter.fr.